Durant le ministère du Seigneur Jésus, le ministère, je veux dire, terrestre, Jésus, par ses enseignements, marquait les cœurs, il marquait les vies. Au travers des foules qui l'écoutaient, eh bien, ces dernières étaient complètement subjuguées, touchées profondément par rapport à ce qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Même les huissiers qui avaient été dépêchés par les chefs religieux de l'époque sont revenus comme confus en disant à ces mêmes chefs religieux « Mais jamais homme n'a parlé eh bien, comme cet homme en parlant bien sûr de Jésus. » Les paroles de Jésus étaient empreintes d'amour. Les paroles de Jésus étaient empreintes de vérité. Les paroles de Jésus étaient aussi empreintes d'autorité. Et quand Jésus parlait, en même temps, il apportait la paix, il apportait le pardon, il apportait quoi encore ? Eh bien, la guérison pour ceux qui choisissaient, bien sûr, eh bien, de prêter attention à ses paroles. Et on voit, quand on lit les évangiles, souvent Jésus, eh bien, ce qu'il faisait, il utilisait des images, il utilisait des paraboles pour se faire comprendre. Et puis, quelquefois, il utilisait des questions. Il utilisait des questions simples, des questions pertinentes, des questions directes. Et justement, ce matin, eh bien, j'aimerais voir avec vous trois questions que Jésus a posées à ses contemporains, mais c'est aussi trois questions que Jésus pourrait poser ce matin à l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Est-ce que vous voulez découvrir ces trois questions ? La réponse est évidente. Et on y va tranquillement, mais sûrement. La première question que Jésus nous pose se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 14. On va le lire ensemble du verset 22 à 32. Au travers de ce texte, nous allons découvrir la première question que Jésus a posée à ses contemporains, mais qui nous pose aussi aujourd'hui. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et alors le vent cessa. Amen. Nous voici comme plongés avec les disciples au cœur d'une tempête. La barque est littéralement ballottée, battue par les flots de ce lac, le lac de Galilée, qu'on appelle aussi mer de Galilée, tellement ce lac était immense. Et au verset 25, on l'a lu, il est dit qu'à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, qui arrive en marchant sur les eaux ? Jésus en personne. En marchant sur les eaux, le Seigneur Jésus n'était pas là pour faire du spectacle devant ses disciples. Au contraire, Jésus voulait imprimer dans le cœur et dans les yeux de ses disciples la vision suivante, c'est que Jésus, il domine à bien tous les éléments. Jésus contrôle la nature, mais il contrôle même les tempêtes dans lesquelles nous pouvons nous trouver, même aujourd'hui, ici, en ces lieux. Mais voilà, tout comme les disciples, nous avons quelquefois de la peine à reconnaître le Seigneur Jésus. Eh bien, au cœur même de nos tempêtes, de nos épreuves, parce que vous l'avez compris, la tempête ici nous parle entre autres d'épreuves. Les disciples, en voyant Jésus, on l'a lu aussi, ont cru voir un fantôme. Alors cela, en plus, a ajouté de la peur à leur propre peur. Ils avaient peur déjà des éléments et maintenant vient s'ajouter une autre peur, celle eh bien, de voir un fantôme. Nous sommes semblables à ces disciples. Quelquefois, au cœur même de la tempête, on peut être dans la confusion et ne pas discerner eh bien, la main de Dieu qui vient nous secourir. Et c'est alors que Jésus vient les rassurer. Aussitôt, Jésus leur dit, mais rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et c'est alors que Pierre, il rentre en jeu. Et c'est là où je voudrais en arriver avec vous. On l'a lu, Matthieu chapitre 14, les versets 28 et 29. Je le relis pour bien situer la chose. Matthieu chapitre 14, du verset 28 et verset 29. C'est le verset suivant. Voilà, bon, c'est pas grave. Non, oh, voilà. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre lui répondit, « Si, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Pierre sort de cette barque et aux yeux étonnés des autres disciples qui étaient là encore dans la barque, Pierre commence à marcher. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette barque, elle me dit quelque part, entre autres, que eh bien, cette barque, c'est ni plus ni moins le confort, notre petite zone de confort. Et je crois que cette année 2019, Dieu désire que nous puissions, quelque part, sortir de notre zone de confort. Et quelque part, tout comme Pierre, savoir exprimer cette prière qu'on a lue au travers de ce verset 28. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. » On a besoin pendant cette année 2019 de dire « Seigneur, ordonne que j'aille un peu plus loin dans ma marche, dans ma vie chrétienne avec toi. Merci pour ta grâce, ta fidélité. J'ai été jusque-là avec toi, mais maintenant j'ai besoin encore davantage de monter sur la colline. » Et venir te rencontrer, Seigneur, ordonne que mon amour augmente pour toi. Ordonne que ma paix augmente, alléluia, dans mon cœur. Ordonne aussi que l'amour, mais aussi que les dons spirituels et aussi les fruits de l'esprit soient manifestes dans ma vie, dans mon cœur. Et on pourrait comme cela rallonger la liste. Une petite remarque, il a fallu quand même une tempête pour qu'une telle prière puisse sortir de la bouche de Pierre. Il ne faudrait pas que le Seigneur, aussi dans son amour, lui-même permette certaines tempêtes pour qu'en retour, nous puissions aussi exprimer cette même prière. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Vous savez, ce jour-là, Pierre, contrairement peut-être aux autres apôtres, parce qu'on aurait pu dire, ben tiens, la même manière que Pierre a bien fait cette prière, les autres aux disciples dans la barque auraient pu dire, mais nous aussi, on veut venir vers toi, marcher sur les eaux. Toujours est-il, il n'y a que Pierre qui a bien choisi de manifester la foi. Et par son acte de foi, ce jour-là, Pierre a vu la gloire de Dieu. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Rendez-vous compte, cet homme qui marche sur les eaux, un pas après l'autre, il n'y a que deux hommes qui ont marché sur les eaux. Le premier, il est particulier, c'est le Fils de l'homme, mais aussi en même temps le Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais le deuxième, c'est ni plus ni moins notre ami Pierre. Oh, on peut, à bien des égards, peut-être le critiquer. Il est un homme comme nous, mais on ne peut pas lui enlever cet acte de foi qu'il a fait ce jour-là. Et il a marché sur les eaux. Et le voilà, à sourire. Peut-être qu'à un moment donné, il a regardé les autres apôtres, leur ont fait un petit clin d'œil. Mais il continue à avancer vers son Seigneur. Jusqu'à un moment donné, il eut peur, nous dit la Bible. On l'a lu. Il a vu le vent souffler et tout à nouveau, il sombra dans cette peur. Et alors qu'il était en train d'enfoncer dans l'eau, il cria à Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Matthieu chapitre 14, verset 30 et 39. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, j'aime ce « aussitôt hein. », aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi !» Et nous arrivons enfin à notre première question. Pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Jésus pose donc une question à son disciple qui venait de vivre le miracle. Pourquoi as-tu douté ? Vous savez, les seuls véritables obstacles qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu en cette année 2019, ce n'est pas tant le diable, parce que le diable il a été vaincu il y a déjà 2000 ans de cela. C'est ni plus ni moins cet irréductible ennemi, un ennemi rapproché qu'on appelle le doute, accompagné de l'incrédulité. C'est ça qui peut être des entraves, c'est ça qui peut être ce matin considéré comme notre pire ennemi. Vous savez, le combat se situe au niveau de notre foi. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit de combattre le bon combat de la de la foi. Et quand on a compris ces choses, eh bien, on s'évertue à pouvoir exprimer la prière qu'a exprimée ses disciples, les disciples de Jésus en son temps. Seigneur, augmente-nous la foi. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce dont nous avons besoin en 2019. Observez bien, regardez bien notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Elle dépend que d'une chose, que de la foi. Mon service va dépendre de la foi. Mon engagement vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Église, va dépendre de ma foi. Ma piété va dépendre de ma foi. Mes attitudes, mes comportements, même mes victoires sur la chair et même sur le diable va dépendre aussi eh bien, de ma foi. Tout est relatif à ma foi. Et la Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi ? C'est notre foi. C'est notre foi. Pour ça qu'Habacuc dira, le juste vivra par... Pas la foi de son conjoint, pas la foi de son prochain, pas la foi de ses enfants ou de ses parents. Le juste vivra par sa foi. Et on a besoin, nous croyants, c'est le cas de le dire, de pouvoir croire et placer notre confiance en cette année 2019, eh bien, qui sera bien sûr tumultueuse. Une année eh bien, qui n'annonce rien de bon parce que nous savons, et c'est la Bible qui nous le dit, eh bien, que le monde va à sa perte, à sa destruction jour après jour. Mais cette année 2019 va nous rapprocher davantage du retour du Seigneur. Il viendra sur les nuées. Et en un instant, en un clin d'œil, les gens n'ont même pas le temps de se retourner et qu'il y aura une dispersion de millions et des millions, des centaines de millions eh bien, de chrétiens et qui auront persévéré jusqu'au bout. Il s'agit pour nous de persévérer jusqu'au bout. Alors toi qui es dans la crainte ce matin, j'ai envie de te dire de la part de Dieu, aie foi en Dieu. Le même Dieu qui a été fidèle avec, à tes côtés durant cette année 2018, c'est le même. C'est le même qui sera là à tes côtés en 2019. Surtout, ne doute pas de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas douté. Je me refuse de douter de l'amour de Dieu. Je me refuse de penser qu'un seul instant, Dieu se serait détourné de moi. Je sais où il m'a cherché. Je ne cherchais pas Dieu, c'est Dieu qui m'a cherché. Et il a su me trouver. Parce qu'il m'attendait là où je devais eh bien, passer. Et tout comme eh bien, des exemples de la Bible, le Seigneur a rencontré ma route et m'a transformé, m'a changé. Et il a fait pareil pour vous. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, ne doute pas. L'amour de Dieu a été tel qu'il a offert son Fils Jésus-Christ à la croix. Alors à combien plus forte raison, nous dit la parole de Dieu, nous donnera-t-il toutes choses avec lui ? Nous l'avons lu ensemble dès que Pierre cria à Jésus, aussitôt. Aussitôt, Jésus étendit la main et saisit Pierre. Et c'est exactement ce que Jésus se propose de faire avec toi, mon frère, ma sœur. En cette année 2019, et je disais, donc vendredi soir, quelquefois, on anticipe déjà des problèmes qui ne sont pas encore présents. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, c'est pas vrai ? N'est-ce pas là une foi négative ? Il y a des gens, même des chrétiens, qui s'amusent à regarder à la fin du journal l'horoscope. Attention à ça. C'est se livrer à une foi négative. Ah mais je suis cancer, donc eh bien ouais voilà, il faut pas que j'aille à tel endroit. Voilà ce que me dit le... Tournons-nous vers la foi positive, qui consiste, on l'a chanté, les yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est capable de nous rassurer. Et ne cherchons pas le bâton pour nous faire battre, mais restons tranquilles auprès du Seigneur. Le Seigneur aussitôt viendra à notre secours. Et le jour ou le moment, à l'instant, nous invoquerons son nom en lui, eh bien qui est fidèle à ses promesses, il viendra nous secourir et en retour, nous glorifierons son nom. Voilà la première question qui pourrait interpeller eh bien, quelqu'un, ou si ce n'est eh bien, chacun d'entre nous ce matin. Pourquoi doutes-tu ? Mon frère, chasse toute forme de doute. Mais il y a aussi une deuxième question que je voudrais placer devant vos yeux et qui est aussi sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Et cette fois-ci, il nous faudrait eh bien, lire une deuxième histoire. Matthieu chapitre 20, du verset 1 à 7. Elle est un peu plus courte, cette histoire. Jésus, je l'ai dit en introduction, eh bien, souvent donnait des comparaisons, des images, et il parle du royaume des cieux. Et il dit, Matthieu chapitre 20, verset 1, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. Alors le maître de la vigne, mais aussi le maître de la maison dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il, amen. Et vous l'avez compris, j'aimerais attirer cette fois-ci votre attention sur la question que pose le maître de la vigne à ses ouvriers qui, à environ vers 17h, étaient là, désœuvrés. Ils étaient sur une place, sur la place publique d'une certaine ville, et ils attendaient d'être embauchés. Ils attendaient que quelques maîtres puissent venir les embaucher dans un travail quelconque. Et c'est alors que le maître de la vigne, au verset 6, leur pose une question qui doit aussi ce matin nous interpeller. Quelle est cette question? On l'a lu ensemble. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Autrement dit, pour faire très simple, pourquoi êtes-vous dans l'inactivité? Et voyez-vous, à cette question, qu'est-ce que les ouvriers répondent? Eh bien, c'est que personne, il n'y a aucun maître, eh bien, qui ne nous a embauchés. Mais quelque part, on peut se demander, tout de même, où étaient vraiment ces ouvriers? Et que faisaient-ils? Lorsque, justement, le maître de la maison, mais aussi le maître de la vigne, est passé à plusieurs heures de la journée, on l'a lu ensemble. Le maître de la vigne est arrivé sur cette même place, sur la place de la ville, à l'aube, c'est-à-dire vers les coups de 6 heures. Puis, il est arrivé vers les coups de 9 heures. Et comme il y avait encore du travail, il est revenu dans les coups de 12 heures. Puis après, à 15 heures. Et parce qu'il y avait encore du travail dans son immense champ de vigne, il avait besoin d'y retourner à l'heure où se trouvaient ses ouvriers désœuvrés, c'est-à-dire à 17 heures. Et je me pose la question, qu'ont fait ces ouvriers désœuvrés toute la journée? Qu'ont-ils fait de leur journée? Et c'est aussi la question que Dieu pourrait nous poser individuellement, que pourrait également poser le Seigneur Jésus à son Église. Que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de notre vie? On le voit, après 20 ans, il n'y a plus de frein à main là. Ça défile. J'essaie de réfléchir à mon adolescence, mes 20 ans, mais c'est tellement bien loin. Puis quand je viens le matin à la glace, moi qui suis black, je vois les cheveux blancs. Qui met le contraste? Parce qu'on vieillit, parce que le temps passe. Et je le dis souvent, le temps c'est ce que Dieu nous a confié, c'est un don inestimable qu'on ne peut pas remplacer. Le temps s'écoule. Un jour nous comparaîtrons devant Jésus. Et voyez-vous, on devra rendre compte de notre vie. On devra même rendre compte des talents que nous avons tous reçus de la part du Seigneur. Autrement, le Seigneur sera juste. Rendez-vous compte, un Seigneur qui donnerait des talents aux uns et pas aux autres. C'est impossible. On a au moins un talent reçu de la part de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et à cause de cela, nous comparaîtrons tous un jour devant le tribunal de Christ pour recevoir ou pas une récompense liée au fait qu'on ait fructifié notre talent. Et vous êtes d'accord avec moi? Je pense que ce matin, le Seigneur désire nous voir dans l'activité. Et non dans la paresse. Il désire nous voir dans l'activité, mais non dans l'activisme. Parce que être dans l'activité, c'est différent que d'être dans l'activisme. Le Seigneur désire nous voir, premièrement, travailler à notre propre salut. Ça commence par cela. Comment pouvons-nous travailler au salut des autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas au clair sous notre propre salut? Et je renchéris ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2019, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, nous allons être conduits vers une vie encore plus profonde, plus sainte. Car c'est là où le bât blesse. On peut lever les mains devant le Seigneur, mais on veut que ces mains soient l'expression même d'un cœur pur, d'une vie sanctifiée qui va de sanctification en sanctification. Rassurez-vous, tant qu'on sera ici-bas, nous serons amenés à nous sanctifier. Mais on a besoin de mettre de l'ordre dans nos vies. Et ça dérange. Et pour cela, il faudra sortir de nos barques. Pour cela, il faudra accepter ce que le Saint-Esprit nous dira de faire. Pour cela, il faudra accepter, et je le dis souvent, je reprends cette parole du livre de Sophonie, que l'Éternel Dieu lui-même vienne fouiller nos cœurs au plus profond de nos vies. Alléluia, avec ses lampes, il est la lumière. Par sa parole, il vient, il éclaire. Alléluia, peut-être nos coins ombragés et ténébreux au plus profond de notre cœur. On a besoin de travailler à notre propre salut, en marchant dans la piété, en marchant dans la sainteté, en veillant sur nos pas. Où marches-tu, mon frère? Es-tu en paix avec les autres? Dis-moi, es-tu en règle vis-à-vis de l'administration? Es-tu bien en paix vis-à-vis de Dieu? Le Seigneur revient bientôt, on l'a entendu. Et on a besoin de laisser tout à nouveau le Seigneur venir prendre la première place dans nos vies. Il peut se faire que le Seigneur Jésus, après avoir été intronisé au plus profond de notre cœur, petit à petit, avec le temps, avec les soucis, avec les tentations, on l'a laissé sortir de notre cœur. Et il est tout à nouveau à la porte de notre cœur. Et comme on l'a entendu au travers du don spirituel, il frappe tout à nouveau. Parce que Dieu nous aime et il veut notre bien. Rappelons-nous que nous sommes sauvés en espérance. On l'a compris, j'espère. On n'a pas un salut qui est bien total et définitif, irréversible. On peut perdre ce salut. C'est pour ça qu'on doit travailler notre salut en veillant sur ce salut, en le faisant fructifier, en l'entretenant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est preuve que nous pouvons perdre ce salut. On a besoin pour cela de travailler notre propre salut, mais on a besoin aussi de travailler au salut des âmes perdues. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que notre Église a besoin de faire des progrès. On a besoin d'avancer sur également cette ligne de conduite. Croyez-moi, on va continuer à sortir. Vous avez vu ces événements qui nous ont parlé ces temps-ci, ces gilets jaunes, qui ont voulu un gilet jaune pour qu'il soit voyant, pour qu'il soit visible. Il y a une révolte dans leur cœur. Il y a des amertumes, des angoisses. Et on le voit bien au travers des témoignages des gens. Les gens, ils ne font pas ça pour rien. C'est parce que c'est l'expression même de leur amertume. Je ne suis pas en train de justifier tous ces cas, c'est tout ce qui s'est fait d'inadmissible. Mais il y a un malaise, un mal-être au plus profond des cœurs. Et nous, on a besoin, plus que les gilets jaunes, d'arrêter d'être transparent, mais d'être visible aux yeux de ce monde. Et pas se revêtir de gilets jaunes, mais laisser tout simplement briller la lumière de Jésus-Christ au travers de nous. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel. Mais le sel avec cette saveur. Pas des statues de sel, mais un sel qui est en mouvement, un sel qui est actif, un sel qui est capable d'arrêter toute forme de corruption. Et que Dieu nous aide à pouvoir être ces gens qui vont travailler, parce qu'il y a une récompense. Vous le savez, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 qui le dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un jour, nous comparaîtrons devant Dieu. Alors imaginez-vous la scène. Joël y rentre, grand hall. Les anges sont là, à droite et à la gauche, du Dieu vivant et vrai. Et je comparais devant le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il me demandera de rendre compte de ma vie et de ma marche chrétienne. Il ne peut pas me rendre compte, me demander ce qu'il en était de ma vie avant de le connaître, parce que la Bible dit que quand il pardonne les péchés, il a effacé. Mais il va me demander compte par rapport au jour où je me suis engagé avec lui en passant par les eaux du baptême. C'est pour ça que s'engager par les eaux du baptême est très sérieux. Et soit j'aurai la tête haute, plein d'humilité et en même temps plein de reconnaissance, ou soit j'aurai la tête confuse. Et je le dis, et ça c'est personnel, je ne veux pas présenter juste une pomme au Seigneur. Mais je veux dire, Seigneur, voilà tout ce que tu m'as permis par ta grâce de pouvoir accomplir. Vous savez, le Seigneur ne regarde pas à la quantité de choses qu'on pourrait faire. Il y en a même qui en perdent la santé. Ne tombons pas dans l'activisme. Mais quand il est dit de travailler de mieux en mieux, c'est pas de travailler de plus en plus. Mais travailler de mieux en mieux, c'est quoi? Travailler de mieux en mieux, c'est travailler avec un bon état d'esprit. Vous savez, ce que le Seigneur regarde, c'est le cœur. On est impressionné, oh, tout ce qu'il a fait pour Dieu, oh, etc. Mais le Seigneur, il regarde le cœur. Cette petite femme, quand elle a déposé ces deux petits sous qui lui restaient pour vivre, le Seigneur a regardé ce qui se passait dans son cœur. D'ailleurs, on le voit au travers d'une autre parabole, je crois que c'est la parabole des talents, où Jésus va dire aux serviteurs, je fais un lapsus, le roi va dire aux serviteurs qui ont fait fructifier leurs talents, c'est bien bon et fidèle serviteur. Et je suis bon et je suis fidèle suivant l'état de mon cœur. Si j'ai un cœur honnête et bon, si j'ai un cœur qui est plein d'amour pour le Seigneur, voilà ce qui est important. Et Dieu en retour va nous bénir, frères et sœurs, si nous agissons ainsi. que l'église d'Istres, durant cette année nouvelle, cette année 2019, qui va bientôt commencer, que l'église d'Istres puisse travailler avec joie et zèle pour la gloire de Dieu. Et on va travailler fatigué, mais peut-être, mais poursuivant toujours. Et puis d'ailleurs, le Seigneur, il renouvelle les forces. On a besoin d'éclairer cette ville d'Istres. Est-ce que vous aimez cette ville? C'est là où Dieu vous a posé, vous a placé. Et tant qu'on est ici, il faut aimer les habitants de cette ville. Il faut aimer eh bien, notre mère. Il faut aimer eh bien, cette ville et désirer le meilleur. Alléluia pour elle, que Dieu soit béni. Et je voudrais terminer ce matin. On a parlé d'une première question. Pourquoi doutes-tu, mon frère, ma sœur? Une deuxième question, mais pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Que fais-tu de ta vie, mon frère, ma sœur? On a besoin de pouvoir accomplir, remplir cette mission première. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a aussi une troisième question par laquelle j'aimerais terminer. Et cette question, on la retrouve à nouveau dans une histoire, dans Marc chapitre 14, les versets 3 à 9. Toujours Jésus, on le lit ensemble. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table et elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « Oh, à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et même ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. » J'aurais aimé être là. Jésus, vous savez, il met tout le monde d'équerre. Hein. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Vous savez, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Vous savez quoi? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance même embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Autrement dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait aujourd'hui même devant vos yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends ce passage. C'est un accomplissement d'une prophétie de ce que Jésus a dit. Partout où l'évangile sera annoncé, on racontera ce que cette femme a fait. Un jour, Jésus donc se trouve à Béthanie chez un certain Simon, qu'il ne faut pas confondre avec Simon-Pierre, le disciple. C'est un autre Simon. D'ailleurs, il est précisé Simon le lépreux. Certainement un homme qui était atteint d'une lèpre et qui certainement a été guéri par Jésus. Et en retour, par reconnaissance, a voulu inviter Jésus ainsi que ses disciples. Et on découvre, on le voit au cours du repas, une femme, certainement Marie, la sœur de Marthe, qui apporte un vase plein de nard pur de grand prix. Un vase qui était scellé. Et cette femme, devant aux yeux de tous, vient rompre eh bien, ce parfum et le verse littéralement sur la tête de Jésus, en signe de reconnaissance et d'honneur. Mais c'est alors, et on l'a lu, quelques-uns qui étaient aussi invités au repas, certainement les disciples entre autres, n'ont pas tous apprécié le geste de cette femme. Et je note avec vous ces deux mots qui sont quand même assez durs à l'égard eh bien, de cette femme. Je relève, eh bien, ces quelques disciples étaient pris d'indignation à l'égard de ce que venait de faire cette femme. Ils sont même arrivés à s'irriter contre cette femme. Et certains d'entre eux ont même considéré que le geste de cette femme était pure perte. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, ce ne sera jamais une perte. Jamais une perte. Et d'ailleurs, même tout ce qu'on donne au Seigneur, eh bien, on le reçoit au centuple. Mais quel honneur! J'en suis même quelque peu eh bien, envieux et donc jaloux de voir cette femme qui a eu cet honneur de pouvoir répandre ce parfum de grand prix. Oui, elle avait une valeur, le contenant eh bien, de ce parfum avait la valeur et même l'équivalence d'une année donc de travail d'un ouvrier moyen de l'époque. Et cette femme, quelque part, a versé toutes ses économies sur la tête, alléluia, du Seigneur Jésus. Quelle libation! Eh bien, qui s'élève comme un doux parfum. D'ailleurs, toute la maison a été remplie. Vous savez, cette histoire, on peut la projeter dans l'église. Hein, on peut la projeter. C'est comme si nous étions tous, eh bien, avec Jésus à Béthanie, sauf que, eh bien, on était à Istres dans l'église. Cette histoire, eh bien, on peut la transposer, eh bien, dans l'église d'Istres. Et Jésus va leur poser une question qui doit aussi nous interpeller, bien sûr, aujourd'hui. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Autrement dit, Jésus les invite à pouvoir s'analyser personnellement et se poser la question au plus profond d'eux-mêmes, ce qui les pousse à manifester de mauvais sentiments à l'égard de cette femme. J'ai pris pour vous un passage de l'Ancien Testament qui en dit long sur certaines choses. Regardez Proverbes chapitre 3, versets 29 et 30 avec moi. Proverbes chapitre 3, versets 29 à 30. Lisez le livre des Proverbes. C'est ce qui va nous permettre, entre autres, de pouvoir acquérir de la sagesse. Quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Donc, par le biais de la prière, on peut acquérir la sagesse. Mais par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, et entre autres, le livre des Proverbes, on peut acquérir cette sagesse. Regardez ce qu'il est dit. « Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure près de toi, il est tranquille avec toi. Pourquoi tu médites du mal ? Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. C'est pareil. » Pourquoi de suite ces mauvaises pensées? Pourquoi de suite ces irritations? Pourquoi de suite un jugement? Avez-vous remarqué que c'est souvent ceux qui ne font rien qui critiquent ceux qui font quelque chose? Ou c'est moi seulement qui ai remarqué ça? Certains vont vous critiquer par pure jalousie. D'autres le feront parce que vos actions les dérangent quelque part. Parce que votre action les reprenne au plus profond d'eux-mêmes. Justement, par le simple fait que vous, vous agissez et eux, ils ne font rien, par exemple. Souvent, la critique négative cache chez ceux qui s'y adonnent des problèmes personnels. Et pour revenir à cette histoire, Judas était aussi parmi ceux qui étaient invités avec Jésus. Et l'évangile, selon saint Jean, nous confirme que c'est bien lui qui a bien fait cette remarque. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre et le distribuer aux pauvres. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6, pour confirmer ce que je dis. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Mais Jean, eh bien, quand il a écrit ce livre, eh bien, avait entre-temps découvert qui était le véritable Judas. Et il confirme au verset 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous savez, vous connaissez ce passage qui dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». J'ai envie de dire « c'est de l'abondance du cœur qu'on agit, qu'on pense ». D'ailleurs, la Bible dit, hein, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Mais aussi, c'est de notre cœur que doivent sortir de bonnes choses, eh bien, à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi des bonnes critiques et celles-ci, il faut les accueillir. Ces critiques, elles sont, comment dirais-je, utiles, elles sont profitables. Et c'est à nous de pouvoir les recevoir avec joie et bienveillance. Mais dans tous les cas, dites-vous bien une chose, si vous vous levez pour servir Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous serez critiqué. C'est incontournable. Jésus lui-même a été critiqué. Est-ce que vous le savez? Regardez dans les évangiles, hein, on a critiqué Jésus et vous ne voulez pas être critiqué? Mais il s'agit pour nous d'être sourds à toutes ces critiques négatives et s'en remettre au Seigneur. Retenons surtout que Jésus a pris la défense de cette femme. Jésus avait entendu aussi ses irritations, ses critiques de plusieurs de ses disciples. Et c'est alors qu'il prend aussitôt la défense de cette femme. On le relit au verset 6. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Ça a chassé toute forme d'irritation et de critique dans le cœur des gens. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Il met là l'accent sur l'opportunité qu'avait cette femme de pouvoir faire quelque chose qui allait eh bien, par la suite, des générations en générations, se répercuter. Et je suis convaincu que dans le ciel, cette femme sera récompensée par rapport au geste qu'elle a posé ce jour-là sur la tête du Seigneur Jésus. Au verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et toi, qu'as-tu fait ? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a avancé, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est fort ça, ce texte. Jésus dit, même cette femme a posé un acte prophétique sur ce qui allait arriver, parce que là nous sommes rendus à environ à bien 6 jours avant la Pâque, la célébration de la dernière Pâque du Seigneur Jésus, et puis après quoi il aurait été arrêté. Son geste a été prophétique, elle était plus que jamais inspirée. C'est pour ça, gardons-nous de critiquer, hein. Surtout si on fait rien. Attention, attention. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Soyons, frères et sœurs, de ceux qui encouragent, plutôt que de ceux qui découragent. Amen ou pas amen ? Soyons au contraire de ceux qui valorisent et non dévalorisent. On a besoin de manifester l'amour et ça commence par cela. Posons-nous la question, si d'emblée on voit une action, paf, on critique, il y a un problème. Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, change-moi durant cette année. Seigneur, aide-moi à regarder vers toi. Si notre cœur est bon, il y a des bonnes choses qui vont sortir de notre cœur. Si notre cœur est mauvais, il y a forcément des mauvaises choses qui vont sortir de nos bouches. C'est ça qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre. Manger du porc ou pas, c'est pas ce qui nous rapproche et qui nous éloigne de Dieu. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui sort de notre bouche. Que sort-il de ta bouche ? En conclusion, très simple, très simplement, voici les quelques pensées que Dieu avait placées sur mon cœur. Quelques pensées tirées de 3 questions que Jésus a posées à ses contemporains, mais qu'il aurait pu aussi nous poser aujourd'hui, nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors permettons au Saint-Esprit de travailler nos cœurs, afin qu'il nous aide à point laisser le doute prédominer sur la foi qui doit nous permettre de vivre et d'être victorieux, non seulement en 2019, mais jusqu'au retour du Seigneur. Permettons aussi au Saint-Esprit qui nous aide aussi à racheter le temps. On a besoin de travailler, frères et sœurs. Il y a plus important que même notre travail terrestre. Je me rappelle, j'étais à mon dernier travail, j'ai fait 2 travaux. Parlez pas de... J'ai travaillé. Et j'étais très bien là-bas. Je traînais pas les pieds pour aller au travail, hein. Je faisais des heures sup sans demander au patron quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en retour, on avait un patron très intelligent. Et il récompensait ces choses. J'avais un grand bureau. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit de laisser tout. Et j'avais une joie. Quand j'allais au travail, même c'était, j'avais le souci. Seigneur, à qui je peux parler de toi, de ton amour ? Si bien que le patron envoyait les stagiaires de passage vers moi. C'est le Saint-Esprit qui le poussait à envoyer les stagiaires. Et quelques collègues venaient et disaient au stagiaire à côté, il t'a pas encore donné la Bible. Non, ça va arriver. Tous mes collègues ont reçu, avec une fierté, j'avais un désir de pouvoir travailler pour le meilleur des maîtres. C'est un honneur de pouvoir parler de Jésus, de briller de 1000 feux. Ceux et celles qui auront annoncé la justice brilleront comme les étoiles, nous dit la parole de Dieu. C'est une révélation qui a été apportée par Daniel. Soit nous restons sur les choses terre à terre. Et au final, à la fin de notre vie, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Venez avec moi voir certaines personnes âgées qui regrettent et qui font, ils n'osent même pas faire un volte-face parce qu'ils sentent que si c'était à refaire, ils auraient fait mieux. Consacre ta vie, donne ta vie tout entière. Seigneur, me voici à ta disposition. Voilà le culte qui sera raisonnable. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à travailler et juste à faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Tout ce que nous avons dans notre vie, c'est des choses que Dieu nous a confiées. Nous ne sommes que des économes. Et à un moment donné, il faudra rendre compte même de la vie, parce que la vie même appartient à Dieu. Je disais lors du cours biblique, finalement donner son cœur au Seigneur, c'est ni plus ni moins, c'est un retour normal, donc des choses, parce que nous appartenons au Seigneur. Tout ce qui est à vous appartient à Dieu, tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Je te donne, tu donnes quoi au Seigneur ? Tout est à lui. Et on pense faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le culte qui est raisonnable à Dieu. Et enfin, qu'il nous aide aussi à travailler ensemble dans l'amour et la paix. que nous ne soyons pas là à nous critiquer les uns les autres, mais apprécier le travail du frère et de la sœur. C'est un travail d'ensemble. Chacun pour sa part, parce qu'on est particulier, on a un travail particulier de la part du Seigneur. C'est pour ça que je ne peux pas critiquer ce que le frère ou la sœur peut faire. Pourquoi lui fais-tu de la peine? Pourquoi lui fais-tu de la peine? Même ce verre d'eau qui est apporté, si c'est le Saint-Esprit qui pousse cette sœur à pouvoir le faire, je n'ai pas le droit de la critiquer. La moindre chose, c'est pour le Seigneur qui le fait, qui l'a fait. Dieu va nous travailler. Je prie Dieu, je dis Seigneur, commence par moi. Je dois être cet exemple. J'ai besoin de laisser encore le Saint-Esprit travailler et couper ce qu'il y a besoin de couper, de retrancher ce qu'il y a besoin de retrancher dans ma vie, afin qu'en retour, eh bien, je sois débordant de la puissance du Saint-Esprit pour vous également et que nous puissions ensemble voir la gloire de Dieu. On va prier ensemble le Seigneur. Seigneur, voici l'Église que tu as rachetée. Voici, Seigneur Père, ceux et celles que tu as sauvés. Seigneur, chaque année, Seigneur mon Dieu, qui passe, nous rapproche de ton prochain retour. Tu es à la porte. Et toi-même, tu l'as dit, tu feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Tu feras la différence entre le juste et le méchant. Tu feras la différence entre celui qui t'appartient et celui qui ne t'appartient pas. Seigneur, nous voudrions ne pas être confus pour ce jour si glorieux, si merveilleux. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de chercher ta face. Nous avons besoin de te laisser nous sanctifier davantage, encore et encore. Seigneur, je te prie pour cette église, qu'elle puisse s'épanouir. Seigneur, que soit une église de qualité. Seigneur, Père, mon Dieu, plutôt que de quantité. Seigneur, nous voudrions, Seigneur, te demander de façonner encore nos cœurs. Que nous puissions être ici un lieu où l'amour grandit jour après jour et que l'amour soit manifesté. Seigneur, Père, nous voudrions chasser toute forme de doute et nous attendre à voir ta gloire se manifester. Nous te demandons, Seigneur, Père éternel, de nous aider à ne point être inactifs, mais dans ce que tu nous inspireras, que nous puissions pleinement accomplir, Seigneur, comme un serviteur, Seigneur obéissant, ce à quoi tu nous appelles. Car tu nous as créés pour des œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir, nous dit ta parole. Ô Seigneur Père, aide-nous à nous bénir les uns les autres. Nous sommes une seule et même famille. Merci encore Seigneur pour toi, à toi toute la gloire. Bénis encore Seigneur tes enfants. Seigneur, tu vois cette période aussi de fête, que nous soyons tous des bénédictions pour notre entourage. Seigneur Père, nos amis, à commencer par nos familles inconverties, que nous soyons, mon Dieu, ces lumières Seigneur pour eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen.